Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Un jeudi noir comme l'ébène nous attend dans deux jours. Peu de trains, peu de métro, peu de profs. Quid de l'ampleur des manifestations? Le nouveau monde d'Emmanuel Macron garde des traces de l'ancien. Une réforme des retraites sans grève, ça n'est pas vraiment une réforme des retraites. Mais à chaque fois cette question, le blocage n'est-il pas contre-productif? Nous serons vers 19h20 avec Julien Trocaz, secrétaire fédéral chez Sudrail, syndicat contestataire à la SNCF, où la mobilisation semble très très suivie. Venez discuter avec nous de la réforme des retraites et du climat social. Appelez le 3921, le standard d'Europe 1, pour intervenir. Le trafic sera donc très perturbé jeudi. C'est évidemment à la une de votre journal. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Ce sera un jeudi de galère, dixit le ministre des Transports Clément Beaune. Grosse perturbation donc en vue à la SNCF ainsi qu'à la RATP. 70% de grévistes dans les écoles. Nous vous dévoilerons aussi la note du renseignement sur l'ampleur de la mobilisation attendue dans la rue. Il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis 1946. Forte baisse de la natalité en 2022 selon l'INSEE.
Et que dit ce baby crash de notre société? Comment interpréter ces chiffres de l'INSEE sans tomber dans la facilité? Des nombreuses questions que nous poserons au démographe Didier Breton, chercheur à l'INED. Vous posez vous aussi vos questions au 3921.
Dans ce journal également, Madonna en tournée mondiale pour ses 40 ans de carrière. Elle passera par Paris. Et puis quand le petit pousset de la Coupe de France rencontre le PSG, ce sera lundi et les places sont parties à la vitesse de l'éclair.
La tendance météo. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël. Alors prudence dans le nord-est et le centre-est en raison des chutes de neige. Une alerte orange est en cours dans 16 départements aujourd'hui, 19 demain. C'est surtout en matinée qu'il faudra faire attention. Et puis ce sera aussi le retour de nombreuses gelées. Météo complète à la fin du journal.
Merci Marlène, à tout à l'heure. On y voit donc un peu plus clair sur les répercussions du mouvement de grève de jeudi contre la réforme des retraites.
Oui, notamment dans les transports, puisqu'on connaît les prévisions. Ce soir, Baptiste Morin, le trafic sera très fortement perturbé.
Oui, et le pire sera pour l'axe Atlantique. Seulement un TGV sur 5 partira en direction de Rennes, Nantes ou Bordeaux. Sur l'axe Est, un TGV sur 4 sera maintenu, un TGV sur 3 sur l'axe Nord et l'axe Sud-Est, et un Ouigo sur 3 seulement aussi. C'est pire côté TER, un seul train sera maintenu sur 10, et encore pire pour les intercités, aucune circulation n'est prévue ce jeudi. La RATP annonce, elle, la fermeture de 3 lignes de métro, les lignes 8, 10 et 11. Seules les lignes automatiques fonctionneront normalement. Les autres n'ouvriront qu'aux heures de pointe et ne fonctionneront que partiellement. Un train sur 3 pour ce qui est des RER A et B. 1 sur 10 pour les RER C, D et E. Moins de perturbations sur les bus. 2 sur 3 circuleront et 3 tramways sur 4 seront maintenus. Enfin, pour ce qui est de l'aérien, l'aéroport d'Orly a d'ores et déjà prévu l'annulation d'un vol sur 5, mais la Direction générale de l'aviation civile précise que des perturbations et des retards restent à prévoir sur les vols maintenus.
Voilà pour les transports. Ce sera donc difficile d'aller travailler quand on n'a pas de voiture. Autre difficulté, que faire des enfants? Car le mouvement devrait aussi être très suivi à l'école. Guylaine David est la porte-parole du premier syndicat du primaire, le SNUIP-FSU.
Du côté du premier degré, des enseignants du maternel et d'élémentaire, nos chiffres font état d'à peu près 70% de grévistes. C'est plus de 2 enseignants sur 3 qui seront en grève ce jeudi. Donc on sait que dans certains départements, il y a énormément d'écoles fermées. Paris, je crois qu'ils font état de 2/3 des écoles fermées. Dans notre communiqué de presse en 2019, on faisait état pour le 5 décembre, la forte journée de mobilisation de 70%, c'est la même mobilisation. Pourtant, c'est une réforme différente, mais on voit bien que toucher au système des retraites et notamment à l'allongement de la durée de cotisation et le recul d'âge de départ impacte fortement les enseignants et ça passe pas. On a un état des lieux de la profession en fin de carrière qui n'est pas bon du tout. Et on sait qu'on ne pourra pas travailler plus longtemps. Donc, les collègues ne se voient pas faire plus d'années dans le métier. Et là, ça se précipite pour eux. Et forcément, ils se manifestent contre et ils le diront dans la rue jeudi.
70% d'enseignants en grève, donc. Propos recueilli par Alexandra Gégy. En revanche, pas de prévision pour les collèges et les lycées, puisque les enseignants du secondaire, eux, n'ont pas à déclarer leur grève en avance. Dans les raffineries, des préavis de grève de 24 heures ont été déposés pour jeudi, de 48 heures la semaine prochaine et de 72 heures début février.
Dans la rue également, ça se précise, Europe 1 vous dévoile la note du renseignement territorial.
Oui, elle évalue l'ampleur de la mobilisation à Paris et en région et les éventuels risques de débordement. William Molinier, vous avez pu consulter cette note. L'appel des syndicats à manifester sera, semble-t-il, entendu.
Oui, puisque le renseignement territorial a comptabilisé sur l'ensemble du territoire 221 actions et manifestations déclarées. Entre 550 000 et 750 000 manifestants sont prévus partout en France. En province, les cortèges les plus fournis seront à Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes et Lille. La manifestation parisienne sera évidemment la plus importante. 50 000 à 80 000 personnes attendues entre les places de la République et de la Bastille. Ce qui est surtout redouté dans la capitale, c'est la présence de 200 à 400 éléments radicaux et violents, ainsi que 400 à 600 gilets jaunes. Cette première date de mobilisation est présentée par le renseignement comme un enjeu majeur pour les syndicats. La mobilisation de jeudi doit donner le ton et montrer l'état des forces. Reste une inconnue, la participation des jeunes et des retraités et un point de vigilance particulier, la présence des syndicats de police dans la manifestation parisienne, potentielle cible de la mouvance radicale infiltrée dans le cortège.
William Molinier.
Voilà, des Français nombreux à ne pas vouloir travailler plus longtemps. Et pendant ce temps, la natalité recule.
Oui, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Selon l'INSEE, en 2022, on a compté 19 000 naissances de moins que l'année d'avant. C'est du jamais vu depuis l'après-guerre, Louise Salé.
Oui, c'est un chiffre frappant. 723 000 bébés seulement en 2022. 1,8 enfants par femme en moyenne. Sylvie Leminez est responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE.
Ce qui est clair, c'est que cette baisse des naissances, elle est due à la diminution de la fécondité des femmes et non pas au nombre de femmes en âge d'avoir des enfants qui, lui, est stable ces dernières années.
En parallèle, les décès sont à un niveau important en 2022 puisqu'ils augmentent par rapport à 2021 d'environ 1%, c'est lié à une surmortalité observée l'an passé.
Alors cette surmortalité, elle peut s'expliquer par plusieurs facteurs, la poursuite de l'épidémie, mais aussi les épisodes de canicule de cet été.
La différence entre le nombre de naissances et celui des décès se resserre donc, si bien que l'on n'a qu'une toute petite augmentation de la population, à peine 0,3%. Les prévisions de l'INSEE annoncent qu'à ce rythme, la population française pourrait diminuer vers 2045 ou 2050.
Et la Chine est elle aussi confrontée à une baisse de sa natalité. 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, population qui a baissé d'environ 850 000 l'an dernier.
La population française, la population mondiale, nous en parlerons après 19h40 avec le démographe Didier Breton. Vos questions, vos interventions sont les bienvenues. Vous nous appelez au standard Europe 1, le 3921.
Grosse perturbation cet après-midi sur les appels vers les numéros d'urgence dans une vingtaine de départements, le 15, le 18, le 112. Pendant une heure environ, il était difficile, voire impossible, de joindre le SAMU ou les pompiers à cause d'une panne chez Orange, panne qui a pris fin avant 17h. Et puis, on apprend ce soir que la célèbre militante écologiste suédoise Greta Thunberg a été à nouveau arrêtée en Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle. Cela faisait plusieurs jours qu'elle participait à une manifestation contre l'extension d'une mine de charbon qui va entraîner la destruction d'un village.
Allez, musique, Madonna est de retour. Elle prépare une tournée mondiale qui passera par la France.
Oui, retour sur scène de la Madone pour fêter ses 40 ans de carrière. Elle se produira à Paris en novembre prochain. Elle l'a annoncé dans une vidéo plutôt provocatrice à son image. Christopher Faleras.
Oui, il est environ 15h quand la reine de la pop publie une vidéo où on la voit assise autour d'une table avec des amis qui la prestent de remonter sur scène.
Ça fait beaucoup de chansons quand même. Est-ce que vous pensez que les gens viendraient me voir? Et toi? Et toi? Toi, tu viendrais me voir? Bon, la réponse est... Putain, ouais.
Une annonce sulfureuse à l'image de la star. Ses fans, comme Cédric, 51 ans, ont attendu une bonne partie de la journée sur Internet pour entendre cette nouvelle.
Je suis aux anges. Voir Madonna sur scène, c'est voir un show inégalé. Vous ne verrez jamais ce type de show avec un autre artiste. Ce n'est pas possible. Elle dégage quelque chose qui est absolument phénoménal. Et je crois que tout le monde a la même réaction quand elle rentre dans une pièce. En fait, c'est quelque chose qui transporte tous les gens.
Pour Stéphane, qui a assisté à près de 60 concerts de Madonna, les deux dates parisiennes des 12 et 13 novembre auront forcément une saveur particulière.
C'est un aboutissement pour moi. On va reprendre 40 ans de carrière, on va réentendre des titres des années 80, 90, qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps. Et c'est fantastique.
Les préventes réservées aux membres des fan clubs seront disponibles dès ce mercredi, en attendant l'ouverture totale de la billetterie pour le grand public ce vendredi.
Voilà, Madonna, en plus c'est votre chanson préférée, tout va bien. Madonna qui a d'ailleurs été sollicitée par la maire d'Amiens. La maire demande à la star de prêter au musée de Picardie un tableau du 19e siècle en sa possession. Tableau de Jérôme Martin Langlois, perdu par le musée en 1918 lors d'un bombardement et réapparu en 1989 lors d'une vente aux enchères à New York. C'est là que la chanteuse l'aurait acheté.
Voilà, Madonna, l'icône, l'éternelle star, des stars du foot maintenant. Le Paris Saint-Germain va affronter un club de 6e division en Coupe de France. Voilà le genre de belles histoires que nous réserve la compétition.
Oui, lundi soir au stade Bollaert à Lens, les Parisiens seront opposés aux amateurs de l'USPI de Cassel en 16e de finale. Les places ont été mises en vente ce matin. Lionel Gougelot, elles sont parties comme des petits pains.
Ah bien écoutez, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, puisque figurez-vous que pas moins de 25 000 billets ont été vendus en à peine 5 heures depuis l'ouverture de la billetterie ce matin. Et le stade Bollaert de Lens devrait faire le plein lundi soir. 38 000 spectateurs attendus pour ce choc des extrêmes en quelque sorte. Gabriel Bogart, le dirigeant du club, n'en revient toujours pas.
Apparemment, il y aura 37 000 Cassellois et Flamands et 1000 Parisiens. Ouais. C'est pas pour ça qu'on va gagner le match, mais ça va nous aider. Ouais. Ça fera le 12e homme à coup sûr. Ouais.
Et autour du joli village des Flandres, il n'y a pas que les billets qui s'arrachent, hein. Il y a aussi les écharpes du club aux couleurs jaune et noire. Imaginez croiser la route des Messi, Neymar et Mbappé. Les supporters et les joueurs sont comme sur un petit nuage.
Quand on fait de l'associatif à un niveau amateur comme ça, et on fait ça avant tout pour une aventure humaine, et quand il arrive des choses comme ça, bah c'est l'aboutissement. Et là, c'est le travail, on récolte là tout ce qu'on a semé depuis des années, et on est récompensé. Et là, c'est magnifique.
Un aboutissement, effectivement, parce que cette belle aventure risque bien d'être stoppée malgré tout par les géants du Paris Saint-Germain. Mais l'essentiel, selon le dirigeant, sera de donner une belle image de la Flandre et du foot amateur.
Voilà, l'essentiel, c'est de participer. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord. À propos de foot, ça se complique encore pour Noël Le Graët, président de la Fédération. Il a beau être placé en retrait de ses fonctions, il est désormais au cœur d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel, accusation qu'il dément. Le tennis à l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'est facilement qualifié pour le deuxième tour. Victoire un an après son expulsion du pays car il n'était pas vacciné contre le Covid. Place maintenant au marché financier avec Didier Hamot de Boursier.com. Didier, Paris continue à grimper. 5e séance de hausse consécutive.
Ça continue, oui. Le CAC 40 est en hausse ce soir encore de 0,48%, 7077 points, ce qui porte à 9% quand même, hein, l'avance du CAC depuis le 1er janvier, ça va vite. Le secteur du luxe en particulier continue de grimper grâce à la réouverture du marché chinois. Hermès est quasiment au plus haut historique, plus 1,7%, 1658 euros ce soir pour Hermès. Même chose pour LVMH, plus 0,6%, 797 euros. Ça veut dire que le groupe LVMH pèse désormais plus de 400 milliards d'euros en bourse. En Europe, Francfort monte de 0,3%, Bruxelles plus 0,1%, Madrid est stable, le CAC 40 donc en progression de 0,48%, 7077 points.
Merci Didier Hamot.
Et merci à vous Hélène Zélani. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau point sur l'information. La météo, Marlène Duret, une alerte orange est en cours dans 16 départements. Puis ce sera 19 en principe demain. On fait le point avec vous. On commence avec la neige dans le nord-est, les Alpes et sur une partie du Massif central.
Oui, alors là, il faut suivre. Donc, il va neiger jusqu'en milieu de soirée entre l'Auvergne et les Alpes. Le Cantal, la Savoie et la Haute-Savoie sortiront de la vigilance orange dès ce soir. Mais l'alerte est prolongée dans le département de l'Ain jusqu'en milieu d'après-midi demain parce que de nouvelles chutes sont prévues. Et j'y viens dans un instant. Dans le nord-est, l'alerte orange reste en vigueur pour Lyon, la Côte d'Or, la Haute-Savoie, Haute-Marne, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, les Vosges et le Haut-Rhin. Jusqu'en milieu de matinée, prévoyez quelques centimètres, jusqu'à 10 quand même sur les hauteurs. Et puis Météo France, donc je le disais, prévoit de nouvelles chutes de neige dès la fin de nuit entre le Limousin, l'Auvergne et la région lyonnaise, avant de progresser en journée vers les Alpes, le Jura et les Vosges, tout en faiblissant. Donc la prudence est recommandée dans la Creuse, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, mais aussi dans le Rhône, la Loire, l'Ain et l'Isère. Une alerte orange est annoncée dans tous ces départements jusqu'à midi ou 15h. Prévoyez jusqu'à 5 cm de poudreuse dans les campagnes, sur les premières hauteurs, et puis un léger saupoudrage dans les villes.
Pas de neige, pas de poudreuse sur la façade ouest, mais pas mal d'averses en revanche.
Oui. Et puis en plus, avec la descente d'air froid, il y a quelques flocons là qui peuvent venir se mêler à la pluie entre la Normandie et la Bretagne. Et puis on a ces averses qui viennent se buter contre les Pyrénées. Donc les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent placées en alerte orange, pluie, inondation, au moins jusqu'à demain matin.
Ça s'agite en Corse.
Oui, averses orageuses qui vont se succéder, notamment sur l'ouest de l'île, avec de la neige à basse altitude sur le relief, du vent près des caps, et ça va durer comme ça quelques jours.
Et côté température, il va toujours faire froid.
Oui, oui, jusqu'au milieu de semaine prochaine, au moins, il va faire froid. Température hivernale sans excès. Mais demain, c'est vrai qu'elles vont baisser dans le sud. En journée, prévoyez dans le nord-est et en Auvergne 0 à 4 degrés. Ailleurs, 3 à 8. Et puis un petit peu plus dans le sud-est avec 9 à 14 degrés.
Merci beaucoup Marlène Duret. À tout à l'heure, 23h sur Europe 1 pour un nouveau point sur les couleurs du ciel. Quant à nous, nous continuons de parler de la réforme des retraites de ce jeudi noir dans deux jours maintenant. Maintenant, très peu de trains en circulation, très peu de professeurs dans les écoles et très peu d'avions également. Et encore, je ne vous donne qu'une partie de la liste. Les blocages sont attendus nombreux. Nous serons avec un représentant du syndicat Sudrail, syndicat contestataire de la SNCF. Vos questions sont les bienvenues. Appelez-nous au standard d'Europe 1, le 3921. A tout de suite.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Votre train de jeudi a peut-être, même sûrement, été annulé ce soir. Le trafic SNCF sera très très perturbé pour la première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats sont-ils en train de créer une dynamique? Ne vont-ils pas retourner l'opinion contre eux? Appelez-nous au 3921 pour réagir, passer à l'antenne. Le standard d'Europe 1 est ouvert. Nous accueillons Julien Trocaz, secrétaire fédéral chez Sudrail, syndicat contestataire, le troisième à la SNCF. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, hier, vous disiez sur Twitter vouloir taper très fort et pas qu'à la SNCF. Vous êtes optimiste pour la journée de jeudi. Je veux dire par là que le blocage que vous espérez va avoir lieu, selon vous.
La mobilisation sociale à la SNCF et d'une manière plus générale dans le pays, ouais, va avoir lieu. Et effectivement, on va taper très fort, toutes et tous ensemble, jeudi.
Ça veut dire quoi, taper très fort ?
Ça veut dire qu'on a une mobilisation forte avec un nombre de grévistes et des salariés qui vont perdre une journée de grève pour montrer leur désaccord face à cette contre-réforme, qui vont se réunir dans la rue, en Assemblée Générale, pour causer des suites et pour réaffirmer à ce gouvernement qu'ils ne veulent pas de cette réforme.
Alors, que fait la SNCF dans ce mouvement ? Votre régime spécial a été aboli en 2018, vous n'êtes pas en fait très touché par ce décalage de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans?
Non, c'est faux. Que ce soit, le gouvernement le dit, que ce soit report de l'âge d'ouverture des droits ou l'accélération de la réforme dite Touraine de 2014, les cheminots et les cheminettes qui sont statutaires sont concernés. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des salariés qu'on appelle des contractuels qui sont soumis au régime général. Donc, et aussi des polypensionnés, donc les cheminots et les cheminotes sont concernés par cette contre-réforme.
Alors, ce n'est pas le fait qu'on touche aux régimes spéciaux qui fait que vous vous mobilisez à ce point,
hein ? Non, si, on touche aussi aux régimes spéciaux, puisque je répète que le report de l'âge d'ouverture des droits et l'accélération de la réforme de Touraine concernent les régimes, les cheminots statuts, mais ça concerne évidemment aussi les contractuels qui sont soumis au régime général, et le sujet aussi des polypensionnés à la SNCF.
Alors, c'est surtout à la RATP qu'on va mettre fin aux régimes spéciaux, avec, comme on l'a fait pour la SNCF, la clause du grand-père, c'est-à-dire que ça ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023, si j'en crois, l'avant-projet de réforme des retraites du gouvernement.
Enfin, si j'en crois la mobilisation qui s'annonce privée, publique, retraités et jeunesse, c'est bien toute la société qui est concernée par cette réforme.
et toute la société, ou presque, qui ne pourra pas se déplacer jeudi, vous n'avez pas peur, comme à chaque fois, hein, j'ai presque envie de dire, comme presque à chaque fois, ça fait beaucoup de presque, excusez-moi, retourner l'opinion contre vous, créer en fait une exaspération qui en fait ira dans le sens du gouvernement.
Non, pour de vrai, la population a compris que cette réforme était injustifiée, parce qu'au passage, il y a un passage en force qui va se faire avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Mmh. On ne parle pas du sujet un peu de fond, financement du système des retraites. Ça, on pourrait en causer avant de passer en force. Et la population a bien compris qu'ils ne veulent pas cette réforme. Et on verra. Il y aura une grande majorité qui sera dans la rue, qui sera à nos côtés, des usagers et des usagères qui, au quotidien, prennent les trains collectifs et qui seront dans la rue avec nous jeudi.
Mais alors, à Noël dernier, alors c'était les contrôleurs, hein, c'était une branche très particulière de la SNCF qui avait provoqué des grèves le week-end de Noël. Ça avait fait plus scandale qu'autre chose. Vous n'avez pas peur que ça fasse la même chose cette fois-ci ?
C'est marrant que vous preniez ça, vous rappeler, du mois de décembre. Donc effectivement, Noël, blocage de la direction d'entreprise. Et quelques jours après, la direction d'entreprise lâche les revendications qui étaient portées depuis des mois. Et il y avait eu des trains au jour de l'an. Donc c'est un bon exemple en fait, ça montre que le sujet du blocage de la direction, là sous le coup SNCF ou du gouvernement, quand il y a une colère sociale et un rapport de force, de quoi qu'il arrive, ils sont obligés de lâcher. Donc effectivement, c'est un bon exemple et il devrait, le gouvernement, retirer ce projet de loi. S'ils veulent parler du financement ou de la pénibilité ou de ce qu'on veut, on peut en causer, mais retirer ce projet de loi.
Alors, Sylvain nous appelle de la Manche au 39-21. Bonsoir Sylvain.
Oui, bonsoir.
Alors, que pensez-vous de ce climat un peu particulier à deux jours de ce qu'on va appeler un jeudi noir dès ce soir, hein, puisque effectivement, ça risque d'être très très perturbé un peu partout en France. Sylvain, on vous écoute.
Bah, écoutez, moi je suis du secteur privé. J'ai jamais fait grève et j'ai du mal à comprendre que ces gens veuillent se mobiliser pour nous. Je suis ambulancier, taxi. On a besoin de circuler. On a besoin de circuler pour emmener les gens à l'hôpital, pour les emmener en consultation. Et bon, ils ont tout bloqué. Et ça, je trouve ça inadmissible.
Est-ce que vous êtes favorable à la réforme des retraites telle que présentée par le gouvernement ?
Je trouve qu'il y a du bon. Il faut qu'elle soit amendée, qu'elle soit dans le bon sens. Et si on veut vraiment une retraite juste, une réforme juste, il faut que la retraite du privé s'aligne sur celle du public. Mmh. C'est-à-dire qu'on est 75% du dernier salaire et non pas 50%. Et là, ce serait vraiment une retraite juste. Une réforme juste, pardon.
Alors, voilà, vous attendez donc des améliorations lors du passage de la réforme au Parlement, si j'ai bien compris. Julien Trocaz, vous êtes secrétaire fédéral chez Sudrail, syndicat contestataire à la SNCF, en pointe hein, de ce mouvement contre la réforme des retraites. Quand vous entendez Sylvain, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres alternatives à des méthodes radicales, comme le blocage ?
Oui, c'est pas un blocage, ça s'appelle une grève. Et évidemment, quand...
Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, Julien Trocaz.
Non, mais les mots ont un sens. Oui. Les mots ont un sens. Voilà, on fait grève, donc on cesse, on perd une journée de salaire. Et évidemment, quand on travaille dans le service public, ça gêne la population parce qu'on sert à l'intérêt collectif. Ce qui est surtout intéressant, c'est la deuxième aussi revendication, les propos
De Sylvain, monsieur, notre auditeur. Oui.
Sylvain, pardon, de notre auditeur, enfin de votre auditeur, c'est effectivement. Et alors, premièrement, nous, la Fédération Sudrail, on syndique dans le secteur privé, hein, parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence. Donc, on a des salariés du secteur privé et on revendique, et on a des revendications pour le secteur privé. Et évidemment, on souhaite un alignement privé-public. Ça, on l'a toujours dit. Mm-hmm. Nous, on considère que tout le monde peut partir, que la ligne d'arrivée est 60 ans pour tout le monde et qu'on prenne en charge la pénibilité. Et on est tout à fait capable de faire voir qu'on peut le financer.
Alors, la retraite à 60 ans, il y a quand même peu de chances que vous l'obteniez, Julien Trocaz. Hein.
Enfin, on en reparle. Nous, on souhaite pas cette société, et ça, on l'affirme, on l'assume, on souhaite pas cette société. Vous savez, moi, mon père, il a été en retraite à 55 ans, il est mort à 60 ans, et parce qu'il avait des travaux pénibles. Je peux vous garantir qu'il a profité quand même 5 ans, et que la retraite, en fait, profiter de ses petits-enfants, participer dans des associations, profiter de la vie alors qu'on a travaillé toute sa vie, c'est ça qu'on veut imposer, et on est déterminé à l'imposer et à en faire en profiter tout le monde.
Alors, vous allez manifester jeudi, hein, je suppose.
Pour moi ?
Oui.
je vais manifester.
Vous serez à Paris, vous serez où ?
Je serai à Paris, ouais.
À Paris, et vous avez peut-être une idée du nombre de personnes qui seront avec vous ? Nous, on a une note des renseignements qui nous parle de au moins 50 000 personnes dans les rues de Paris. Vous vous attendez à combien, vous, Julien Trocaz ? Ou si vous me permettez de reformuler ma question, à partir de combien de personnes dans la rue ce sera un succès selon vous ?
Non, mais alors moi, j'ai aucune. Alors, pour de vrai.
Ouais, vous voulez pas vous risquer pas... Vous voulez pas vous risquer ?
Non. Je vais être sincère avec vous. J'ai pas l'habitude. Moi, je suis originaire de la région Alpes, de Chambéry.
Oui.
Et je fais des manifs parisiennes pas tout le temps. Donc, j'arrive pas à cerner, à avoir une comparaison entre voilà ce que c'est une manif parisienne réussie. Ce que je peux vous dire, mais par rapport à la remontée du terrain, et on a des salariés qui nous demandent lors des manifestations à quelle heure on se retrouve ou ça. Et ça, c'est assez symptomatique d'une détermination. Hein. Des fois, des salariés, ils font grève, on dit qu'ils font grève à la maison. Là, ils vont pas faire grève à la maison, ils vont aller dans la rue. Donc, ce qui annonce, c'est vraiment une présence importante, très importante dans la rue, au même niveau minimum que le 5 décembre 2019. Rappelons-nous, le 5 décembre 2019, c'était la bataille qu'on avait faite contre la réforme système par points voulue par Édouard Philippe,
ouais.
Et qui, à la fin, ne s'est pas appliquée.
Alors, pour des raisons autres que la mobilisation syndicale, c'était en raison de la pandémie.
Ah bon ?
La pandémie qui a d'ailleurs fait émerger...
Je peux vous rassurer, je peux vous garantir que si la mobilisation n'avait pas duré décembre-janvier, la système par points serait passée.
Alors ça, l'histoire ne pourra pas nous le dire puisqu'il y a eu cette pandémie. La pandémie qui a d'ailleurs fait émerger le télétravail qui peut aussi limiter les effets délétères de la grève des cheminots prévue pour jeudi. Merci en tout cas Julien Trocaz, secrétaire fédéral chez Sudrail, syndicat de la SNCF, d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Europe 1. On continue de parler de la réforme des retraites juste après une courte pause. Appelez-nous au 3921, le standard d'Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
À deux jours de la première mobilisation intersyndicale, interprofessionnelle contre la réforme des retraites, on y voit un peu plus clair. Ce sera un jeudi noir dans les transports, que ce soit les trains, les métros à Paris, dans les avions également. Des professeurs, beaucoup, hein, très nombreux, notamment du premier degré, seront en grève. 70% nous dit le SNUIP PPFSU ce soir. Nous en parlons avec Raymond Soubi, ancien conseiller social du président Sarkozy, architecte d'une réforme des retraites voté en 2010, président du groupe de conseil Alixio et spécialiste des mouvements sociaux. Bonsoir Raymond Soubi.
Bonsoir.
Alors, Europe 1 s'est procuré une note des renseignements territoriaux. Ils anticipent jusqu'à 750 000 personnes dans toute la France jeudi. Est-ce que ce sera un succès si ce chiffre est atteint ou dépassé ?
Écoutez, oui, je crois que ce sera un succès. Je rappelle pour mémoire qu'en 2010, année dont vous parliez, de la réforme des retraites 62 ans, il y avait eu 4 manifestations nationales qui avaient dépassé chacune 1 million de manifestants. Donc le chiffre que vous citez est légèrement inférieur à 1 million, mais il reste tout à fait important. Et d'ailleurs, moi, les remontées que j'ai des confédérations, des entreprises publiques que vous avez citées, et même d'entreprises privées, montrent qu'il va y avoir une très forte mobilisation. Une mobilisation dans la rue, mais aussi une mobilisation dans les entreprises avec des arrêts de travail.
Est-ce que
donc
vous avez un ordre de grandeur?
Pour les syndicats, ça va être réussi.
Est-ce que vous avez un ordre de grandeur? On s'approchera du million, hein, c'est l'objectif, hein, fixé par
moi, je crois
beaucoup
qu'on
de
s'approchera du... Qu'on s'approchera du million, qu'on l'atteindra ou qu'on le dépassera. En tout cas, ce sera une grande mobilisation dans la rue. Et il y aura en effet des mouvements de cessation de travail que l'on verra ici ou là. Vous l'avez rappelé dans le secteur public, transport, électricité, etc. Mais je pense aussi dans beaucoup de grandes entreprises privées où les gens vont cesser le travail pour participer aux manifestations.
Alors les syndicats assez peu mobilisateurs hein, ces dernières années sont-ils en train de retrouver un peu d'air, un peu de crédibilité, j'allais dire, Raymond Soubi?
Ah ben je crois qu'ils retrouvent un peu d'air, parce qu'en effet, ils réussiraient à faire une grande manifestation, ce qu'ils ne réussissaient plus à faire depuis des années. La question pour eux est de savoir s'ils vont tenir dans la durée. parce que dans leur programme, la journée de jeudi est une journée numéro 1, qui devrait être suivie du journée numéro 2 et puis du journée numéro 3. Et la réforme des retraites va prendre quand même, pour être votée, un certain nombre de semaines ou de mois. Et par conséquent, l'enjeu pour eux, c'est de réussir jeudi prochain, je crois que ça va être le cas, mais aussi de réussir les manifestations suivantes. Et puis l'autre question sera de savoir si les grèves, notamment du secteur public, seront des grèves de 24 heures, comme on en a connu souvent dans le passé, gênantes, mais enfin point totalement paralysantes, ou bien des grèves continues à la RATP ou à la SNCF. Et nous n'en sommes pas encore là.
Alors il y a un secteur important, tout à fait stratégique également, qui veut se mettre en grève sur le long terme. Il y a des préavis qui sont déposés jusqu'à 72 heures. Ce sont les raffineries. Alors là, si les Français ne peuvent pas prendre le train, mais qu'en plus ils ne peuvent pas prendre leur voiture, la situation risque de se tendre très sérieusement. Est-ce que les syndicats ne jouent pas un peu avec le feu et risquent de se mettre, au final, l'opinion à dos?
Oui, c'est en effet un risque qu'ils ont. C'est que le côté positif pour eux, c'est qu'ils arriveraient toujours à mobiliser, nous l'avons dit. Et puis, le côté négatif, c'est si la population se détournait d'eux. Donc on voit bien dans les sondages que les syndicats ne sont pas quand même à leur zénith de popularité. Je rappelle qu'il y a un précédent historique, vous parliez de 2010. En 2010, il y a eu de grandes manifestations dans la rue, il n'y a pas eu de grandes grèves, sauf à la fin du processus, où justement il y a eu une grève des raffineries. Voilà. Et où ils avaient en effet bloqué la distribution de carburant, et puis l'affaire c'était... J'allais dire délité.
Et on avait beaucoup parlé des réquisitions déjà à l'époque, hein, comme en octobre
absolument.
Dernier. Et vous
absolument.
Vous en rappelez tout particulièrement, Raymond Soubi. Et à l'époque, on ne connaissait pas le phénomène Black Bloc. Hein. Il y avait des violences, mais qui étaient d'une autre nature, d'un autre type. Jeudi, ça dégénère en Black Bloc, là aussi...
C'est gênant pour le gouvernement, naturellement, parce que ça fait des ordres. Ce sont d'ailleurs des désordres graves, ou ce seraient des désordres graves dans la rue, mais c'est aussi gênant pour les syndicats, qui donneraient une image d'organisation qui lance des mots d'ordre, mais qui ne sont pas capables de les suivre et surtout de les encadrer comme autrefois. Le phénomène des Black Blocs est apparu à la mi-temps des années 2010-2020. C'est un phénomène nouveau qui fait que des manifestations jusqu'alors paisibles peuvent en effet mal tourner, avec des conséquences gênantes pour le pouvoir politique, mais aussi pour les initiateurs de ces mouvements.
Alors, on nous appelle au 39-21. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Eh bien, je suis un peu scandalisé que la SNCF, une fois encore, eux qui bénéficient d'avantages sociaux considérables, un peu comme la RATP, se mettent encore en grève. Moi, j'ai travaillé dans un magasin d'optique où j'étais à l'atelier. J'ai commencé à j'ai pris ma retraite à 66 ans, après 49 ans et demi de cotisation. Bon, certes, je n'étais pas sur un chantier, mais je pense que 64 ans, c'est un compte encore bien honnête. Si ça peut faire perdurer nos retraites qui sont quand même relativement bien calculées, si j'ose dire. Et moi, ce qui me scandalise, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grève, des gens comme la SNCF en profitent pour mobiliser, c'est-à-dire imposent la grève, parce qu'en fait, la grève aurait beaucoup moins de valeur si, effectivement, les gars de la RATP et de la SNCF, déjà, se contentaient de ce qu'ils ont déjà, il me semble.
Alors, vous estimez qu'ils ne sont pas quoi, légitimes pour faire la grève, Thierry, si j'ai bien compris?
Ben oui,
ils ne sont pas les mieux placés, oui. Mais Raymond Soubi, c'est un peu à chaque fois la même chose. Hein. Merci beaucoup, hein, Thierry, d'avoir contribué à notre discussion. Thierry, bon, alors, si je l'ai bien compris, est déjà retraité. Beaucoup de retraités sont plutôt favorables à la réforme envisagée par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais Thierry traduit également un sentiment que beaucoup de Français partagent, à savoir que, ben voilà, ils ne comprennent pas toujours le sens de ces grands mouvements de grève, grand mouvement de blocage, on peut le dire, de paralysie.
C'est vrai. Les Français ont deux réactions sur les mouvements de grève du secteur public, de paralysie. Tantôt, je dirais, la grève par procuration. Au fond, ils se disent, voilà des gens qui portent aussi nos revendications et ils ont les moyens de bloquer la société française, donc ils nous aident. Réaction 1, et puis la réaction 2, qui est celle que vous mentionnez, à savoir qu'il y a une forme d'exaspération de la paralysie du secteur public. D'autant que, s'agissant de cette réforme des retraites, il y a des mesures de transposition dans les régimes spéciaux, mais disons-le, comme d'ailleurs le dit votre auditeur, elles sont modérées, les mesures de transposition. Bon. Et par conséquent, au fond, sur le fond, le départ de l'âge de départ à la retraite et tout ça, les intéressés devraient être plutôt soulagés qu'inquiets.
Alors, le gouvernement, lui, de son côté, sans espérer de violence, n'a-t-il pas intérêt à ce que le sentiment d'exaspération monte comme ça de semaine en semaine? Là, il y a peut-être une chance de faire basculer l'opinion. Je vous donne juste ce sondage publié par nos amis du Journal du Dimanche la semaine dernière, sondage IFOP. 68% de Français sont hostiles au décalage de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Ils sont en revanche à 50% contre les blocages. Hein.
Oui, c'est clair. Donc il y a une contradiction entre la position sur le fond et puis le non-soutien, enfin le soutien très relatif au blocage s'il se produisait. Et ceci serait d'autant plus fort que ce que les syndicats vont essayer de faire, les blocages se reproduiraient. Encore 24 heures, c'est 24 heures. Mais 24 heures renouvelées tous les 10 jours, ça fait beaucoup.
Mmh. Et oui, il faut rappeler aussi qu'en 2010, alors vous aviez cité ces quatre manifestations qui avaient rassemblé à peu près un million de personnes. À l'époque, hein, si on voit l'état de l'opinion, alors ce ne sont que des sondages, mais en 2010, c'était à peu près 50% de Français favorable à la fin de la retraite à 60 ans. La donne n'était pas tout à fait la même.
La donne n'était pas tout à fait la même, absolument. Le climat n'était pas du tout le même.
Voilà.
Et puis, il n'y avait pas, en 2010, tous les irritants que beaucoup de Français ont aujourd'hui liés à la guerre en Ukraine, au carburant, à la hausse des prix, etc.
Ça, c'est un contexte qui peut, évidemment, faire que les syndicats soient dépassés, le gouvernement aussi, en fait, hein.
Bien entendu. Mais c'est la pire des situations.
Il y a une certitude, le pays sera paralysé, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur la tournure que cette contestation sociale va prendre.
Absolument. J'ajoute qu'il y a un point très différent depuis 10-12 ans, c'est qu'on voit constamment, et d'ailleurs les enquêtes Ipsos et Ipsos nous le montrent bien, c'est qu'il y a un désamour, si jamais il y a eu amour, des Français à l'égard des politiques. Les politiques ne sont plus vraiment considérées, sauf les élus locaux. Et parallèlement, il y a un certain désamour à l'égard des syndicats et qui se traduit par le fait que les salariés votent moins aux élections professionnelles, adhèrent moins aux syndicats. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un déclin. Disons qu'il y a un désengagement par rapport à l'attachement traditionnel au parti ou au syndicat. Donc, les syndicats jouent gros dans cette affaire. Il ne faut pas que leur crédibilité s'en soit encore plus entamée, avec le risque que des syndicats sans aucune crédibilité dans un pays, on ne contrôle plus rien en matière sociale et on ne peut plus avoir des négociations et on ne peut plus sortir des conflits.
Le standard sonne, le standard d'Europe 1, le 39-21, le téléphone sonne, hein, le standard aussi. Martine est avec nous, bonsoir Martine.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Eh bien écoutez, moi je voulais témoigner parce que, effectivement, moi je suis cadre de santé.
Oui.
Donc je travaille dans le milieu hospitalier. J'ai commencé comme agent hôtelier au ménage. J'ai été aide-soignante 10 ans. J'ai été infirmière un certain temps. Et puis après, j'ai fait une formation pour être cadre de santé. Donc j'ai fait 25 ans de cadre de santé. Dans la théorie, je devais être à la retraite le 1er octobre. J'y serai certainement que le 1er janvier si la loi passe. Après ça, bon, sur le fond, ça ne me gêne pas plus que ça.
Ah.
Mais en fait, moi, je voulais intervenir surtout par rapport à tout ce qui est au niveau de la pénibilité.
Mais on vous écoute, Martine, c'est un sujet tout à fait passionnant, tout à fait crucial.
Oui, parce que je pense que tout n'est pas équitable, en fait, dans notre société, dans le sens où... J'entends souvent, bah, effectivement, les gens de la SNCF, la RATP, qui ont quand même des régimes particulièrement intéressants. Moi, je les invite à venir dans les services. Moi, je travaille en EHPAD, à venir voir comment ça se passe quand on fait des accompagnements de fin de vie, quand on fait des choses bah, où on court dans les couloirs toute la journée parce qu'on court après le personnel, parce qu'on cherche des gens et qu'on n'en trouve pas. Et que malgré tout, on essaye de donner un minimum de qualité de soins en fonction de ce qu'on a en personnel, parce que c'est difficile selon les régions. Et voilà, donc c'était un peu plus un coup de gueule que vraiment de faire une analyse sur ce qui se passe.
Vous faites une très belle carrière, Martine. Vous exercez un vrai métier de dévotion, hein. Il faut le dire.
Mais carrément, et il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a énormément de gens qui sont dans le milieu du soin et qui font effectivement des belles carrières, mais qui sont des carrières épuisantes et fatigantes. Hein. Moi, j'ai un dos explosé parce que voilà, j'ai été soignante, j'ai porté plein de gens et que je n'avais pas de matériel à l'époque. Et on n'a pas vraiment, moi, je sais qu'on n'a pas vraiment de reconnaissance par rapport à tout ça et c'est bien dommage. Donc, je pense qu'il faudrait un peu rééquilibrer tout ça et je pense que ce serait pas mal, effectivement, que tout le monde soit sur le même niveau et fasse les mêmes choses en temps, en fait.
Alors,
parce que après qu'il y ait des carrières pénibles, je l'entends. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a un marteau-piqueur toute la journée, je suis complètement d'accord sur le fait que ces gens-là...
Et les cheminots n'ont pas toujours des carrières faciles non plus. Hein, voilà. C'est ça qui m'inquiète un peu dans ce que vous dites, Martine. Hein. Je vous reproche absolument rien. Hein. C'est qu'on vient, à l'occasion de ces débats, toujours à comparer les professions les unes avec les autres, hein, n'est-ce pas, Raymond Soubi?
Oui, absolument. Moi, je comprends très bien les réactions de Martine. La difficulté de ce sujet, c'est que c'est très difficile, vous l'avez dit, de comparer les situations personnelles les unes aux autres. D'ailleurs, il y avait eu des tentatives avec des critères de pénibilité qui avaient été mis dans la loi et qui ont dû être abandonnés au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron parce qu'en fait, ils étaient inapplicables. Donc, je crois que de donner une priorité aux métiers pénibles, aux carrières longues, leur donner des droits particulier, ça va dans le bon sens. La difficulté, c'est de trouver des critères pour le faire. Vous voyez, c'est des critères objectifs et qui soient définis par les textes. J'ajoute que le gouvernement souhaite prendre et a pris des mesures et souhaite prendre des mesures en faveur des carrières longues et des métiers pénibles. Et je rappelle quand même qu'il réinvestit, si j'ose dire, à peu près 40% de ce que va rapporter la réforme dans les mesures en faveur des salariés qui sont dans ces situations.
Dernière question, Raymond Soubi, très courte, et je vous demande une réponse courte aussi, si possible. Emmanuel Macron ne sera pas en France jeudi, il participe à Barcelone à un sommet franco-espagnol. Est-ce qu'il a raison, comme ça, de quitter le pays le jour de la première grande mobilisation syndicale contre l'une de ses grandes réformes? En tout cas, c'est ce qu'il avait dit pendant la campagne pour sa réélection.
Oui, le président restera connecté, même là où il sera, à la situation. Un et deux, il a des engagements internationaux, il doit les respecter. S'il ne les tient plus pour des raisons internes, bien je crois que, enfin, que la considération de la France à l'extérieur risquerait en pâtir.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé une fois encore ce soir, Raymond Soubi, un des habitués d'Europe Soir quand il s'agit de parler de la réforme des retraites. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller social du président Sarkozy et président du groupe de conseil Alixio. Restez avec nous, dans quelques instants, nous évoquons la démographie française. Elle ne se porte pas très bien. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Tentons à présent de traduire les chiffres du jour. Nous sommes désormais 68 millions de Français. Notre démographie ne se porte pas pour autant si bien que cela. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, les Français n'ont eu aussi peu d'enfants qu'en 2022. 723 000 seulement. Ajoutons à cela un nombre de décès particulièrement élevé, 667 000, presque autant qu'en 2020, l'année du Covid. La France reste leader en Europe, mais n'est-elle pas la borgne au pays des aveugles avec un petit 1,8 enfant par femme? Nous en parlons avec Didier Breton, démographe à l'INED, l'Université de Strasbourg. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le solde naturel, comme on dit, est de plus 56 000 en 2022. C'est la différence entre les décès et les naissances. Là, c'est pire qu'en 2020. Que se passe-t-il? Peut-on tout mettre sur ces temps troubles de pandémie?
Bon, c'est les naissances moins les décès à 56 000. Bon, il faut rappeler que c'est en effet un minimum, c'est vraiment faible. Et or, le solde naturel, là, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est le moteur de la démographie française. mais on reste quand même un des quelques pays à avoir encore un solde naturel positif en Europe.
Mais alors, que se passe-t-il? Comment expliquer ce déclin français, certes relatif à l'échelle de l'Europe, mais si je prends les taux de fécondité, comme on dit, passés, la France était autrefois largement au-dessus de 2 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 1,8. Ça a baissé depuis 2020. On était à 1,83. On est à 1,80 maintenant.
Oui, oui, on est à 1,8. On n'était pas à 2. On était à peu près à un peu plus de 2 en 2010. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui.
Donc, en effet, cette fécondité baisse. Ça veut dire que le nombre... Dans les conditions de 2022, les femmes auraient en moyenne environ 1,8 enfants. Alors ça reste le record quasiment en Europe, hein, avec peut-être la Roumanie qui va rattraper la France, mais ça reste un nombre haut, mais pas suffisant pour renouveler les populations. Alors ce 1,8, ça peut être conjoncturel, ou alors refléter une baisse plus longue ou plus générale de la fécondité.
Est-ce que ce n'est pas le reflet, la traduction, la conséquence d'une société qui évolue? Je prends par exemple la maternité, hein, elle est de plus en plus tardive. En 1974, les femmes avaient en moyenne leur premier enfant aux alentours de 24 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt 28 ans et demi. 31 ans, c'est l'âge moyen de la maternité en France.
Alors ça, c'est une tendance longue, hein. L'âge moyen au premier enfant, il ne cesse d'augmenter, Covid ou pas Covid, c'est sûr. Les années 70, c'était des années exceptionnelles, c'est pas forcément une référence, c'est vraiment l'année ou les années 70, où on a eu son enfant le plus tôt, bien avant les années 30 ou 40. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que si le nombre de naissances a beaucoup baissé, c'est en partie parce qu'il y a un peu moins de femmes, mais aussi certainement qu'un certain nombre de couples ou de personnes ont retardé ou déplacer leur projet fécond un peu plus que ce qu'ils avaient même prévu, parce que la tendance longue, c'est d'avoir de plus en plus tard, mais peut-être c'était encore un peu plus tard du fait des incertitudes.
Alors, est-ce que les femmes n'envisagent pas plus aujourd'hui des carrières professionnelles longues qu'il y a 20, 30, 40 ans?
Alors ça, ce que vous dites, c'est un mouvement long, et c'est vrai. Oui. C'est pas que les femmes, hein, d'une manière générale. Et donc ça, c'est ce qui explique la tendance longue, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on a en moyenne ces enfants de plus en plus tard. Mais là, on est dans une période où c'est un peu compliqué de lire dans cette boule de cristal démographique, de savoir est-ce que c'est un changement durable ou c'est juste un effet de ces incertitudes qui sont liées aux différentes crises qui se succèdent depuis 3 ans maintenant, 2 ans, ouais, presque 3 ans, enfin, deux bonnes années en tout cas.
Alors, il y a un de ces moteurs d'incertitude, c'est la crise climatique. On les appelle les éco-anxieux. L'un d'entre eux nous appelle au 39-21, le standard d'Europe 1. Bonsoir, Mehdi.
Bonsoir.
Vous, la crise écologique vous angoisse au point de ne pas vouloir fonder de famille, si j'ai bien compris?
Totalement, enfin, en tout cas, de se questionner quant à la possibilité d'avenir qu'on offre à nos enfants. Je veux dire, quand on sait que, à l'heure actuelle, nous épuisons les ressources de la Terre 2 fois plus vite qu'en 1970, que qu'on se retrouve avec une crise qui va être d'une violence inouïe, avec des problématiques auxquelles on refuse de se confronter, que ce soit les migrants climatiques, les réfugiés climatiques ou autres. Je veux dire, on est obligé de se confronter à ça et de faire face à nos responsabilités.
Vous ne voulez pas avoir d'enfant, Mehdi?
Absolument pas. Et à ça, ajouter tous les autres facteurs d'incertitude, la déconstruction de la famille au sens hétéronormé, c'est plein de facteurs qui font qu'on arrive au terme de cette vision qu'on avait de l'accomplissement de la famille.
Alors, mais au commencement, Mehdi, il y avait bien un homme et une femme, et heureusement qu'ils ont eu des enfants, parce que sinon, on ne serait pas là.
Au commencement, il y a eu un homme, une femme, pour certains, pour d'autres, c'était Adam et Ève.
Non, alors je ne dis pas ça sur un plan religieux.
Donc, on est plus sur la fin que sur le commencement.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il n'y ait plus personne sur Terre?
Justement, prendre conscience que là, on se dirige vers une catastrophe qui peut nous mener à la fin de l'humanité, et prendre conscience que on doit faire attention à notre manière de consommer et considérer que maintenant, rien changer va tout simplement nous amener à condamner nos enfants et notre futur. Je veux dire maintenant que ce soit autant par rapport aux ressources que la planète a à nous offrir ou autant le schéma de la famille classique, on peut se questionner sur ces questions, sur ces schémas-là. Je veux dire,
pardonnez-moi, mais est-ce que je peux vous poser une question un peu personnelle? Quel âge avez-vous?
J'ai 26 ans.
Voilà, donc vous êtes considéré comme un jeune, hein, c'est bien ça. Hein. Je peux le dire, vous êtes un,
bien sûr,
un jeune, Mehdi. Alors, Didier Breton, vous êtes démographe à l'INED, l'Université de Strasbourg, et avec nous ce soir sur Europe 1. On l'entend, fonder une famille, ça a mauvaise presse hein, chez les jeunes de nos jours.
Je pense qu'on ne peut pas sur un cas généralisé.
Sur un cas généralisé.
La question, mais en tout cas, ce qu'on entend, c'est vraiment cette question de l'incertitude et s'inscrire dans un projet de parentalité, ça demande certaines certitudes, en tout cas une vision à long terme. Alors si cette vision à long terme, elle est un peu tronquée ou pessimiste, c'est difficile de se prolonger. Vous voyez, parce que et donc ça, c'est des éléments, en effet, qu'on voit monter. On n'a pas d'enquête sérieuse et récente sur cette question-là. On a des travaux où on a été interrogé des gens de manière qualitative, mais ça manque. Et on sait que c'est un élément... c'est un phénomène de société, c'est des questions que les jeunes se posent, peut-être à juste terme, à juste titre, peut-être de manière exagérée aussi, à 1,8 enfants par femme, une population à terme, et si ça se maintient très longtemps, la population, elle diminue. Alors c'est bien ou pas bien, mais en tout cas pour répondre aux angoisses de qui ont été évoquées à l'instant, à 1,8 la population diminue.
Alors, il y a aussi une autre statistique, on parle beaucoup de la chute des naissances, il y a aussi une augmentation assez spectaculaire des décès. Alors, c'est une tendance qui s'explique hein, logiquement, ce sont en fait les enfants du baby-boom qui sont de plus en plus âgés et qui viennent à être de plus en plus nombreux à mourir. C'est la seule explication qu'on peut apporter, Didier Breton.
Ouais. Les décès, ils sont un peu variables et ils dépendent beaucoup aussi, par exemple, des épidémies de grippe, des choses comme ça. Et là, il y a certainement, on le sait, l'INSEE le dit, hein, il y a un phénomène de grippe. Et comme vous l'avez dit, il y a un effet de structure, c'est que les baby-boomers arrivent petit à petit à des âges où il est, entre guillemets, normal ou classique, où il y a une concentration forte de décès. Il faut savoir qu'en 10 ans, hein, on a perdu... 100 000 naissances et il y a eu 100 000 décès de plus, donc à peu près. Donc vous voyez, je grossis un peu les chiffres, mais c'est pour ça que le solde naturel diminue fortement.
Voilà, et aujourd'hui, 21% de la population française a plus de 65 ans, hein, c'est ça la réalité.
Tout à fait, ouais.
Alors, on le disait, hein, on va refermer cette édition d'Europe Soir. Je voudrais juste qu'on réévoque le meilleur taux de fécondité d'Europe hein, qui revient à la France, 1,8 enfants par femme. Qu'est-ce qui permet de soutenir cette statistique très importante? C'est quoi? C'est la politique familiale à la française qu'on disait autrefois particulièrement généreuse. Hein, y a le congé paternité qui a été allongé, le congé maternité qui existe depuis très longtemps, les allocations familiales, l'accueil des jeunes enfants aussi, hein, il faut le dire. En France, on a la chance de pouvoir laisser ses enfants à la crèche quand il y en a une, évidemment, mais dès 3 ans, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres pays d'Europe.
Alors pour les congés parentaux, on n'est pas les champions, notamment à la direction des pères, on n'est pas les champions. Par contre, ce que vous avez dit en dernier, c'est sûr que l'accueil des jeunes enfants, ça c'est une spécificité française et qui est un élément important de la possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle. Ça, c'est évident, ouais.
Merci beaucoup Didier Breton, démographe à l'INED, l'Université de Strasbourg. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité avec Hélène Zélani. A tout de suite.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé.